Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Si la rentrée littéraire est une promesse pour les écrivains, les lecteurs, les libraires, les éditeurs et tous les amoureux du livre, c'est une promesse encore plus grande pour les auteurs de premiers romans. Et en cette année, parmi les 511 nouveaux titres, ils sont 65 à être publiés pour la première fois. Tous ces textes n'ont pas encore trouvé leur public, mais certains font déjà leur chemin. Et parfois, grâce à une voix toute simple, le courrier. Ainsi en est-il de notre invité aujourd'hui, qui vient d'être récompensé par le prix Envoyé par la Poste. Bonjour Dima Abdallah.
Bonjour.
Est-ce qu'en effet, ce rêve que caressent tous les aspirants écrivains, d'être lu, remarqué et surtout édité en envoyant par courrier son manuscrit à un éditeur, est un rêve que vous avez accompli ?
Ayant grandi entouré de livres et dans une famille d'écrivains, ce n'était pas réellement un fantasme pour moi de me faire publier. Par contre, l'amour de l'écriture, oui, bien sûr, je l'ai toujours eu. Mais pour en revenir à ce rêve qu'ont les gens de se faire publier, ce n'était absolument pas le mien à la base, parce que c'est quelque chose qui est très normalisé autour de moi.
Alors je vais un peu reformuler ma question. Ce que je voulais aussi vous dire et peut-être transmettre à nos auditeurs, c'est que donc ce rêve de poster un livre, de le mettre dans une boîte aux lettres à destination d'un éditeur qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais entendu, mais qui vous lit attentivement et qui finit par vous publier, donc ça existe.
Oui, tout à fait. Et c'est très excitant en même temps. Moi, j'avais envoyé ça comme ça, histoire de dire je l'ai fait et de tenir ma promesse vis-à-vis de mon entourage qui me disait non, il faut absolument l'envoyer. Je me suis dit comme ça, c'est fait, pas de regret. Et puis, ça a été extrêmement rapide.
Et en même temps, si je peux me permettre, Dima Abdallah, il se trouve que vos deux parents sont écrivains.
C'est ça.
Et publiés.
Oui.
En France, comme votre maman. Donc vous auriez pu presque avoir un réseau, un coup de pouce, j'ai envie de dire.
Alors non, et ma mère n'a absolument pas lu le texte jusqu'à ce qu'il ait été imprimé. Pas sur mon imprimante, hein.
imprimé par l'éditeur.
Tant qu'il n'était pas sorti, je pense qu'elle n'avait absolument pas envie. Je lui ai proposé, mais je crois qu'elle n'avait absolument pas envie d'intervenir dans ce champ qu'elle estimait devoir être extrêmement libre pour moi. Elle n'avait absolument pas envie de peser, et ça a été le cas. Et puis voilà, elle est très fan.
Et on va dire son nom, on va la saluer.
Oui, bien sûr.
Oda Barakat, donc, qui en France est publiée aux éditions Actes Sud.
Oui.
Donc, voici Mauvaise Herbe, au pluriel. Votre premier roman qui retrace de 1983 à 2019 les impacts souterrains que la guerre civile au Liban a sur vos deux personnages principaux. Une enfant, au début, et son père, et comment l'un et l'autre sont profondément meurtris de l'intérieur, et même après la fin du conflit. Vous êtes né à Beyrouth, Dima Abdallah.
Oui.
Vous avez à peu près l'âge de votre narratrice, sans doute connu les mêmes souffrances, nous en reparlerons. Mais avant toute chose, est-ce que les explosions qui ont ravagé votre ville natale en août dernier ont réveillé une douleur ?
Oui, bien entendu, oui. C'est un pays qui m'a vu naître et grandir. C'est un pays où je retourne souvent. C'est un pays où j'ai encore de la famille. Donc oui, bien sûr que j'ai été très affectée, et d'où la tribune que j'ai accepté de publier dans Le Monde.
Qui disait quoi ?
Ne t'endors pas Beyrouth.
Ne t'endors pas Beyrouth.
Oui.
Pour sous-entendre ?
On sous-entend que cette ville qui était tellement fatiguée déjà, qui s'était relevée tant de fois, j'avais envie de lui dire que ce n'est qu'une fois de plus. Et je ne sais pas, ce texte est venu à moi très spontanément, je l'ai écrit en une demi-heure. Quand on m'a demandé de le faire, j'ai spontanément répondu oui, bien entendu, en sachant parfaitement que je n'allais rien écrire de politique ou d'engagé, parce que ce n'est absolument pas mon domaine. Mais je pense que c'est un... C'est un texte qui est assez triste, où finalement je me demande si elle arrivera à se relever, cette ville, encore une fois de plus. Parce que là, on baigne en pleine absurdité, en plein chaos. C'est vraiment un drame. C'est le drame de plus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans une ville normale, entre guillemets.
C'est une crise effectivement économique, politique, sanitaire, qui s'ajoute aux crises antérieures, particulièrement évidemment cristallisées par cette guerre civile qui donc est aussi le moteur de votre roman.
Oui, cette guerre civile qui n'a jamais cessé finalement.
C'est ça.
Oui.
Et donc, nous entrons dans votre fiction maintenant avec vous, Dima Abdallah, et ce récit en alternance de deux personnages qui, à tour de rôle, essayent de mettre des mots sur ce qu'ils traversent pendant et après la guerre. Une relation entre une enfant et un adulte, une relation nourrie de silence, mais en même temps très fusionnelle. Et pourtant, jamais vous n'écrivez qu'il s'agit d'un père et de sa fille. Pourquoi ?
Je le dis une seule fois.
Oui.
Dans le premier chapitre, en fait, elle dit « mon géant, mon géant, mon géant » jusqu'au moment où elle dit qu'on lui crie dessus, elle dit il n'y a rien que je déteste plus qu'on crie sur mon père.
Donc une fois,
mais on le comprend très bien.
Je pense
que ce n'était pas indispensable. Mais pour en revenir à ce dialogue-là, effectivement, c'est une histoire d'amour, finalement, une histoire d'amour avec un silence qui est complètement assourdissant. Le roman fonctionne en huis clos, c'est-à-dire on se rend bien compte que le personnage de la mère et de la frère sont aussi importants aux yeux de la fille, sauf que et du père bien sûr, sauf qu'ils sont complètement mis à l'écart. Et ce huis clos est un choix, est un parti pris littéraire. Et dans ce silence étouffant de tout ce qu'ils n'arrivent pas à se dire, finalement la réponse c'est la littérature, c'est cette alternance des chapitres. C'est-à-dire que finalement ce livre-là, c'est tout le dialogue littéraire, finalement. Finalement, ils se parlent beaucoup. Ils se parlent beaucoup sans s'adresser l'un à l'autre. Donc la littérature vient réparer, en quelque sorte, ce silence.
Ce sont deux monologues, en effet, qui finissent par être un dialogue. Et d'ailleurs, dans les derniers chapitres, les voix se glissent les unes entre les autres beaucoup plus de façon fluide. Et on passe de lui à elle sans toujours s'en rendre compte.
Tout à fait.
Mais ils utilisent aussi les mêmes mots.
Tout à fait.
Le même vocabulaire de guerre, d'ailleurs.
C'est vrai.
Et voilà, il y a cette espèce de mimétisme qui se crée aussi grâce à votre style. Alors, je voudrais revenir sur le début du roman. Tout le roman est poignant, mais évidemment, le début nous prend au ventre tout de suite. Elle a 6 ans dans la première scène. Son père vient la chercher à l'école parce qu'il y a des tirs dans toute la ville. Il y a un chaos total. Chaque parent essaye de récupérer son enfant pour aller le mettre à l'abri. C'est hélas courant, cette scène. Elle a l'habitude et déjà on entend dans sa voix une détermination, une force. Et par exemple, elle met un point d'honneur à ne pas pleurer.
Oui.
Pourquoi ?
Je crois qu'elle a pas envie que son père arrive et la voit en train de pleurer. Je crois que c'est une petite fille qui cherche quand même beaucoup à protéger son entourage. Elle dit qu'elle est bien contente que son petit frère ne soit pas à l'école ce jour-là, parce qu'elle se dit les imbéciles de sa classe, qui sont encore plus petits, vu que c'est son petit frère, doivent encore plus paniquer. Et oui, elle pense énormément aux autres. Je pense que le chaos ambiant est tellement dingue. La violence ambiante est tellement dingue, la souffrance des gens autour d'elle est tellement importante qu'il n'y a pas de place, enfin, en tout cas, elle estime, elle, qu'il n'y a pas de place pour qu'elle dérange encore plus, pour qu'elle se plaigne, pour qu'elle fasse des caprices. Elle dit d'ailleurs qu'elle sait pas faire. Elle regarde un peu ses camarades pleurnicher, sangloter. Et parfois, elle a envie de faire comme eux, mais elle n'y arrive pas. Au premier chapitre que vous évoquez, justement, elle dit « j'ai essayé de toutes mes forces de penser à des choses tristes pour leur ressembler un peu. Mais non, moi, j'étais très contente, finalement, d'être là, en train d'attendre mon papa. Je sais qu'il va venir et qu'il va me chercher. » Alors, au-delà de ce fait de vouloir dissimuler sa peur, je pense aussi que c'est une petite fille qui est née pendant la guerre et du coup qui n'a pas d'autres référents. Je crois que c'est très différent pour les des adultes qui ont vécu en temps de paix et qui voient cette guerre déferler d'un coup. C'est-à-dire que pour elles, finalement, c'est la norme. Ok, il y a des bombes. Oui, ben là, les abris, pourquoi pas. On va se retrouver entre gamins de l'immeuble et puis, voyez, une forme
c'est
de
son
déni.
Quotidien.
C'est son quotidien d'une part, et il y a une forme de déni quand même, je pense, par ailleurs, parce que on se rend bien compte que même si elle n'a pas d'autres référents, elle doit ressentir et vivre énormément de choses très traumatisantes. Mmh. Mais en tout cas, elle, elle n'en a pas conscience. C'est vraiment quelque chose qui est sourd. C'est une violence sourde.
Vous aussi, vous aviez 6 ans, 1983. Vous étiez
oui,
comme ça,
Fina Abdallah. Je crois que je ressemble pas mal à mon personnage. Je crois qu'elle est beaucoup plus courageuse que moi. Elle est quand même costaud, je trouve.
Et en même temps, comment est-ce que vous avez travaillé cette mémoire, puisque vous faites partie de la mémoire collective de ce pays? Est-ce que vous avez dû batailler pour retrouver des sensations, des impressions, des peurs, des angoisses que peut-être vous aviez mis de côté justement pour continuer d'avancer?
Alors, je pense que ce genre d'angoisse n'est jamais complètement mis de côté. On posait une question pas plus tard que ce matin pour me demander est-ce que la guerre civile, finalement, on continue à la vivre c'est un traumatisme qu'on garde toute sa vie. Moi, je pense que oui, à chaque seconde, à chaque minute de ma vie, je suis une enfant de la guerre civile. Ça, je l'ai beaucoup, refoulé pendant un moment, en me disant, bon, bah, c'est une histoire comme une autre. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses plus terribles que moi. Mais en fait, non. Enfin, je suis profondément marquée par mon enfance. Pour en revenir donc à la manière dont la mémoire est intervenue durant l'écriture, j'aime assez le fait que finalement ce titre de Mauvaises Herbes colle assez bien à la manière dont l'écriture du livre s'est faite. C'est-à-dire que j'étais pas du tout partie à écrire ce livre-là à la base. Et les souvenirs et les sensations et les odeurs et les couleurs, les images, tout a poussé en moi comme les mauvaises herbes, vraiment de manière très sauvage. Ça a été une écriture très libre, très instinctive, où finalement, ces chapitres peuvent être vus aussi comme des mauvaises herbes qui ont poussé dans mon esprit pendant l'écriture. Et évidemment que même si c'est une fiction, il y a énormément de ma mémoire qui est venue toquer à la porte et dire « Allô ?» c'est toujours là, mais je pense que c'est très bien du coup pour l'écriture. Oui, c'est ça m'a aidé à retrouver des sensations vraiment très authentiques vu que je les avais vécues. Et bizarrement, ce livre en fait n'a pas du tout été difficile à écrire. Il a été extrêmement fluide. Il a été écrit en pas très longtemps. Par contre, une fois que je l'ai imprimé pour la première fois, là j'ai eu une espèce d'effet boomerang. Immense qui m'est retourné comme ça à la figure, comme si ce n'est qu'après que je prenais conscience de ce que j'avais déversé. Mmh. Et en ça, l'écriture, c'est vraiment une exploration et c'est vraiment une mini transe. C'est-à-dire que finalement, ce roman, je ne sais pas à quel point c'est moi qui l'ai écrit.
Alors parlons-en aussi de ces mauvaises herbes, titre de votre roman, et qui font aussi référence à d'autres scènes, puisque ce père et cette fille soudés traversent le temps et la violence en érigeant des murs invisibles pour se protéger, pour paraître plus fort, lui devant sa fille, elle, vous l'avez dit, devant son petit frère. Et l'un des rares moments où ils arrivent à se parler sont ceux où, sur la terrasse, ils commentent les plantes dans les pots, jasmin, rosier, oui, marjolaine, basilic et autres herbes aromatiques. Qu'est-ce qui se joue entre eux pendant ces échanges apparemment anecdotiques, selon vous, Dima Abdallah?
Alors, je ne pense pas que ça soit anecdotique, vraiment. Je pense qu'ils ont besoin de se dire la poésie qu'ils partagent. Ce fil botanique, on le retrouve vraiment tout au long du roman. Et je pense aussi que ça leur permet de ne pas parler de ce qui est fâcheux. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se parler, finalement. Et ce fil botanique, ces conversations qu'ils ont, c'est pour parler de ce qui est beau.
Mais du coup, ce sont quoi les mauvaises herbes pour vous?
Alors, les mauvaises herbes, vous savez, c'est... c'est vraiment une question de point de vue. C'est-à-dire que le plantain, qui est une mauvaise herbe ultra commune qu'on retrouve au pied des rosiers ou de ce qu'on décide de planter, ou le coquelicot dans un champ de blé, sont des mauvaises herbes jusqu'au moment où on décide de les cultiver parce qu'on découvre qu'elles ont des propriétés médicinales ou odorantes ou peu importe. Donc ces mauvaises herbes, en fait, par définition, elles sont étrangères. C'est ce qui pousse au milieu d'autres choses. Et je crois que mes deux personnages sont profondément étrangers et exilés dans la société dans laquelle ils poussent, si j'ose employer un terme botanique, dans laquelle, en tout cas, ils vivent. Ils sont profondément différents. C'est pas seulement eux qui le ressentent parce qu'ils ont justement cette poésie de la vie, ce refus d'appartenir à des causes dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. C'est aussi la société elle-même qui les met à l'écart. Parce qu'une fois qu'on a fait ce choix-là de ce que j'appelle la liberté, finalement, c'est un choix extrêmement difficile. C'est un choix qui fait que on est mal vu, et j'avais beaucoup envie de questionner la place d'un homme. Pour ça, ça a été très satisfaisant pour moi d'avoir une voix narrative masculine, de questionner la place d'un homme dans cette guerre civile, d'un homme qui est profondément pacifiste, profondément libertaire même, je dirais, qui n'a vraiment absolument rien à voir à ce qu'on exige, à ce qu'on demande par des temps aussi, comment dire, aussi obscurs et aussi, aussi violents. Et je crois que c'est profondément une mauvaise herbe pour ça, pour en revenir au titre du roman. Donc c'est cette liberté en fait de la mauvaise herbe qui pousse là où elle ne devrait pas. Donc oui, ce terme de mauvaise herbe, je l'aime assez ce titre parce qu'il peut être compris vraiment de beaucoup de manières différentes. C'est aussi les souvenirs qui poussent dans sa mémoire à cette fille devenue jeune fille puis après femme et qu'elle essaye d'arracher en vain en permanence. Lui aussi d'ailleurs, il se réfugie beaucoup dans l'oubli. Et je crois qu'elle aussi, elle essaye, je suis même sûre, que mon personnage essaye en permanence d'oublier tous ces traumatismes, mais qui reviennent à elle malgré elle.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Dima Abdallah qui vient de publier son premier roman sous le titre Mauvaises herbes aux éditions Sabine Vespiesser. Un texte magnifique où en regard, un père et sa fille écrivent chacun leur tour comment ils ont traversé ou pas la guerre civile qui a déchiré le Liban des années 70 aux années 90. Une guerre qui, comme une bombe à fragmentation, a explosé en mille éclats et continue en sentinelle à creuser des blessures en chacun, des blessures invisibles qui d'ailleurs ne s'arrêtent pas, même si on est déraciné, comme votre narratrice qui part à 12 ans à Paris avec sa famille, sans son père, mais même loin, même dans un pays en paix, la fracture est toujours là. Et c'est ce que vous disiez au début, Dima Abdallah.
Oui, c'est extrêmement important. En fait, je trouve que la deuxième partie du livre, qui est après la guerre, est beaucoup plus dramatique et beaucoup plus tragique, finalement, que la première partie où on est dans une urgence. D'ailleurs, la narration est beaucoup plus... Le rythme est beaucoup plus rapide dans la première, est beaucoup plus soutenu. On arrive sur une espèce, finalement, de... Je dirais que c'est le champ de bataille, la deuxième partie. C'est-à-dire, d'une part, c'est les conséquences. Ok, la guerre est finie, mais ces deux personnes-là ne vont pas... claquer des doigts et puis...
aller mieux,
et puis comme si de rien n'était. D'une part, c'est ça. Mais d'autre part, et c'est très important, je crois que ces deux personnages-là, on les aurait mis complètement dans un décor différent, mettons à Paris ou en Suisse ou je ne sais où. Je pense que ça aurait été des mauvaises herbes de la même manière. C'est-à-dire que leur exil, en fait, il est profondément intérieur. Et bien sûr que, en fait, la guerre est un prisme, est une loupe qui aggrave tout. J'aime assez le fait qu'ils disent, le père, partir n'est pas une question de géographie. Et je trouve que c'est très vrai. Parce que finalement, cette petite fille, elle part dans son monde complètement dès le début. Mais surtout le père. Je crois que elle déguerpit à l'adolescence. Elle dit vraiment au revoir à tout et prend son sac à dos et puis elle va sur les routes. Et lui, il part, il s'en va chaque jour un peu plus avec l'alcool. Et je pense que cette petite fille, au premier chapitre, elle sait qu'elle est en train de perdre son père. Finalement, ce roman, c'est l'histoire d'une longue perte, d'une perte qui se poursuit vraiment à l'infini. Je pense qu'elle sait qu'il ne tiendra pas le coup.
C'est donc un roman aussi sur les mots dits, les mots étouffés, les mots asphyxiés par l'angoisse, car la petite fille a des crises d'angoisse terribles qui coupent littéralement sa respiration et qui inquiètent beaucoup ses parents. Il lui faudra beaucoup de temps avant de savoir ouvrir la bouche, ouvrir le nez pour que rentre l'oxygène et respirer. Et c'est donc aussi un roman sur les mots écrit, car le père est poète et la petite fille grandit en regardant son père écrire. Est-ce que vous voulez bien, Dima Abdallah, nous lire cet extrait de votre roman où il raconte comment il écrit et son lien à l'écriture ?
Bien sûr, avec plaisir. Je retourne m'asseoir sur la même chaise, devant les mêmes feuilles encore blanches, allume une cigarette et prends mon stylo en main. C'est comme ça tous les matins, chaque matin, depuis plus de 20 ans, et ce le sera toujours, malgré leur départ. J'ai toujours écrit le matin, peu importe les événements de la veille, mon humeur ou ma forme physique. Que j'ai bien dormi ou passé une nuit blanche, que j'ai ri ou pleuré, que je sois dehors à la terrasse d'un café ou bien à la maison. J'écris quelles que soient les circonstances et où que je sois. Même après une nuit de bombardement, peu importe. J'écris comme on se purge, j'écris comme je vais aux toilettes, tous les matins, je veux dire, avec le même besoin, la même urgence, la même évidence. Avec eux ou sans eux, avant eux et après eux. Mes doigts sont rodés comme s'ils étaient nés avec un stylo, mon écriture est régulière, presque machinale, et mes feuilles se ressemblent toutes. Quand j'oublie de les numéroter, j'ai le plus grand mal à les remettre dans l'ordre. Écrire, c'est ma discipline. Ce serait bien la seule que je m'impose. Ça, et boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, en plus du café et des cigarettes, il y a toujours un verre d'eau plein sur ma table. Je continue à prendre plaisir à écrire, malgré tout, en dépit de tout. Je suis maître de mes mots comme personne. Tout ce que je fais d'autre est au mieux bancal, au pire absurde. C'est la seule chose qui me fait me sentir à ma place, à ma juste place. Je sais que je le fais bien. Je sais que ça, ça a du sens. Rien d'autre n'a autant de sens. Les mots, les phrases, les pages sont un pays que je réinvente en permanence. Si je ne parle pas beaucoup, c'est parce que je sais le poids des mots. Je sais que le choix et la place de chaque mot dans la phrase comptent. C'est pour ça aussi qu'elle parlait de moins en moins. C'est parce qu'elle sait, elle aussi, que les mots ont de l'importance, que les mots sont un outil sérieux, que chacun a un sens précis et que le sens importe. Elle sait que les mots ont des conséquences. Je n'ai jamais compris les gens bavards, ceux qui ne prennent même pas le temps d'écouter leurs interlocuteurs, parce qu'ils sont déjà pressés de lui répondre et de continuer à parler encore et encore. Il n'y a aucun filtre entre leurs pensées et leur langue. Les mots et les phrases sortent comme un vomissement. Je sais le poids de chaque mot, l'importance de la mesure, des consonances, l'harmonie du tout, l'écho des voyelles. La poésie supporte encore moins l'approximation et les bavardages que le reste. Un mot de trop et le rythme est perdu. Un mot de trop et la grâce fout le camp. Je vais noircir des feuilles ce matin comme chaque matin. Je vais chercher les bons mots, les mettre dans le bon ordre pour en faire des vers ou des phrases et parler en silence. La feuille voit les lignes se dessiner et labourer mot après mot, silencieusement, le mutisme. C'est en silence que les bruits, les sons et la musique viennent graver le blanc et tuer le néant. Je tue le silence, en silence, chaque matin. Chaque phrase respire en rythme, dans le rythme que je veux, dans le rythme que je lui dicte. Chaque mot respire avec la profondeur que je lui ordonne. Je tue le manque d'air, je tue le souffle court, chaque matin. Je tue le bruit strident qui sortait de sa gorge quand elle essayait d'inspirer, quand il n'y avait plus de mots. Je vais écrire parce que c'est la seule façon que j'ai de résister encore un peu. C'est mon combat, c'est ma guerre à moi. Je vais noircir les pages de ce qui reste de moi. Je vais terrasser le manque d'air et anéantir le souffle court. Écrire, c'est la révolte et j'en suis le maître. C'est la seule résistance à l'absurde. C'est le sens, c'est le tangible. C'est écrire l'absurde pour tuer l'absurde. Écrire Sisyphe, c'est tuer Sisyphe.
Merci Dima Abdallah. Merci. Pour cet extrait de votre roman « Mauvaises herbes ». Et vous, est-ce que vous écrivez comme cela ?
Un peu, oui, je pense.
Vous vous reconnaissez ?
Oui, bien sûr.
C'est un livre écrit en français. Est-ce qu'à un moment, vous avez été fâchée avec la langue arabe, Dima Abdallah ?
Je ne sais pas si j'ai été fâchée. Peut-être un peu à un moment à l'adolescence, quand on est fâchée avec tout. C'est un livre que j'ai écrit en français parce que le français est devenu... Le français est une évidence comme langue d'écriture, parce que j'ai une bien meilleure maîtrise. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais des fois, je suis un peu chagrinée d'avoir perdu tant de mon arabe. Mais j'ai une bien meilleure maîtrise en français et je n'aurais absolument pas pu, malheureusement, écrire un livre en arabe. Quant à la relation que j'entretiens avec la langue arabe, j'en parle à la fin du livre. Je crois que c'est une relation qui est très passionnée. Je crois que je dis à un moment que peut-être qu'on fera la paix un jour, moi et les mots d'arabe, où je les convoquerai un par un, on discutera ensemble et on trouvera un nouveau contrat, une nouvelle entente. Et je dis que je leur pardonnerai. En même temps, c'est la langue d'écriture de mes parents et c'est une langue superbe et c'est une langue que j'adore. Donc je pense qu'il est temps pour moi de faire un peu la paix, oui, avec cette langue.
De 1983 à Beyrouth... À 2019, à Paris, Mauvaises herbes raconte aussi l'histoire d'une renaissance. Et c'est aussi un roman sur la transmission, pas forcément verbale d'ailleurs, puisque en écho au premier chapitre, le roman se termine sur un ballet de mains aujourd'hui, entre un parent et son enfant. Comme le père venait chercher sa fille à l'école, la fille devenue mère, à son tour, prend son propre enfant par la main.
Tout à fait, c'est pour ça que le début du roman s'ouvre par cette belle citation d'Éluard qui est « On transforme sa main en la mettant dans une autre ». Et je crois que c'est très vrai. La vie est faite de rencontres et je crois qu'on rencontre ses parents.
Et on rencontre des livres et des auteurs.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Dima Abdallah.
Merci
à vous. Je rappelle le titre de ce très beau livre, « Mauvaise herbe », qui a paru aux éditions Sabine Vespeyser et qui a reçu d'ores et déjà le prix littéraire envoyé par La Poste, qui, à mon avis, n'est que le début d'une longue série. Merci.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.